Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Dominique Simoneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous venez d'arriver à Diolfi pour participer à Concertina, les premières rencontres autour de l'enfermement. Vous dirigez une autorité administrative indépendante qui tient un rôle essentiel en France. Depuis sa création en 2007, le contrôleur des prisons est chargé de contrôler ces dernières, mais également les centres éducatifs fermés, les centres de rétention administratifs ou encore les hôpitaux psychiatriques. Vous pouvez être saisi par les citoyens qui vivent enfermés dans ces lieux et émettre des recommandations et des avis à l'adresse du gouvernement. Vous avez été nommé en octobre dernier sur proposition du président de la République. Cette nomination a été soumise au vote des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous étiez jusqu'alors journaliste judiciaire au Canard Enchaîné à Libération, reconnu pour vos chroniques sur la vie judiciaire et sur les comparutions immédiates. Le milieu carcéral, est-ce que vous en connaissiez déjà la réalité ou est-ce que vous l'avez découvert en prenant votre poste ?
Disons que je la connaissais parce que j'y travaille depuis le début, depuis que je suis rentrée à Libération. Donc ça fait 30 ans et c'est un sujet qui m'a toujours passionnée parce qu'auparavant, j'étais éducatrice à la pénitentiaire pendant 10 ans. Donc vous voyez, ça fait une longue vie à s'intéresser au milieu carcéral et pas seulement à tous les lieux que vous avez cités. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui... je peux rentrer dans tous les établissements pénitentiaires avec mon équipe. Et c'est là que j'ai découvert la réalité vraie de mes yeux. À savoir que j'ai écrit pendant des années, c'est une honte, les détenus sont trois à rester enfermés dans 9 mètres carrés. Ben, ils ne sont pas enfermés dans 9 mètres carrés. Ils sont en vérité enfermés dans 4 mètres carrés. Parce que quand on enlève l'emprise du coin toilette, du coin douche quand il y en a une, des deux lits superposés, du matelas au sol qui est contre le mur dans la journée et de la petite table pour manger, et ben, on a calculé, ça leur fait 4 mètres carrés. Donc ils ont à peu près, un détenu a à peu près 1,20 mètre carré d'espace vital pour lui tout seul. Or, la norme européenne, c'est 3 mètres carrés. Vous voyez qu'on est loin de là. Et je vous avoue que la première fois qu'on m'a ouvert une cellule et où j'ai vu ce spectacle de trois hommes dans cet espace, mais minuscule, c'est une vision horrible. C'est beaucoup ça que j'ai découvert. Les rats, je savais qu'il y en avait, je les ai vus. Les punaises de lit, bon, on ne les voit pas, mais on sait qu'il y en a. Les cafards, je les ai vus. La violence, je ne l'ai pas découverte non plus. Mais disons que de voir les choses de ses yeux, ça éclaire beaucoup. Et ça donne beaucoup de force et de conviction et je dois dire de rage.
Et il en faut pour faire un job comme le vôtre, en fait, aussi.
Je pense qu'il faut à la fois de la colère, de la conviction et puis se poser aussi et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça change.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail la fonction du contrôleur de prison et à quoi ressemble en fait votre travail au jour le jour? Par exemple, je me suis demandé, est-ce que vous allez souvent en prison vous-même? Vous avez certainement une grande équipe. Comment ça s'organise?
Alors, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Déjà, très pluridisciplinaire, il y a tout le monde là-dedans. Il y a des médecins, des psychiatres, des avocats, des directeurs de prison, des policiers, des gendarmes, des juristes. Franchement, c'est très large comme panel. Donc, les échanges sont déjà formidables parce que tout le monde s'y connaît vachement dans son domaine. Et ensuite, mes journées, j'ai décidé, comme ma prédécesseuse, je crois, je pars tous les mois... Toute l'équipe, enfin, l'équipe part 15 jours en mission. Moi, je pars une semaine tous les mois parce que 15 jours, j'y arriverai pas et j'ai trop à faire autrement au siège, au bureau. Et donc, je pars une semaine par mois. Ma première visite, ça a été un centre de rétention. J'y tenais beaucoup. J'ai découvert en pleine pandémie ce que ça voulait dire, c'est-à-dire des hommes enfermés sans gel hydroalcoolique parce qu'il paraît qu'ils le boivent ou qu'ils peuvent y mettre le feu. Et surtout des gens qui sont enfermés là alors qu'ils ne repartent pas parce que pendant la pandémie personne ne repartait, il n'y a pas de vol, donc on ne peut pas s'empêcher de se dire, et je l'ai dit et on l'a dit, que ça enlevait toute base légale à leur enfermement puisque normalement les retenus sont dans un centre de rétention le temps nécessaire à leur départ, mais s'il n'y a pas de départ
Il y a un léger problème.
Il y a un léger gap, oui.
L'ampleur de la tâche semble assez immense. Vous avez annoncé lors de votre audition au Sénat ne pas avoir l'intention de diriger une institution qui servirait d'alibi. Est-ce que vous avez l'impression, 9 mois plus tard, d'avoir pris vos marques depuis votre arrivée ?
Disons qu'au début, j'étais un peu en panique de voir l'ampleur de la tâche, mais je m'y suis faite à force de discuter avec l'équipe et de partir, et puis de voir que quand même, même si peut-être qu'en apparence, vous allez me dire, on ne fait pas trop bouger les choses, en fait, sur le terrain, on les fait bouger. Parce que chaque fois qu'on va quelque part, on fait ce qu'on appelle une restitution à la fin de notre séjour dans un lieu d'enfermement. Et on explique ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'on a noté de bien et ce qu'on a noté de pas bien. Or, avec les équipes, c'est beaucoup mieux qu'avec les ministres, par exemple, qui franchement prennent la chose avec, ça j'ai été surprise, beaucoup de désinvolture. Mais ça s'arrange un peu. En tout cas, sur place, il y a beaucoup de choses qui sont corrigées au fur et à mesure de nos visites. Déjà, pour moi, c'est un bon point. Et mes collègues m'ont expliqué, t'attends pas au grand soir, on fait bouger les choses petit à petit. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Si je découvre un jour que vraiment je ne sers absolument à rien, j'arrêterai. Mais pour le moment, non. Je pense sincèrement qu'on peut servir beaucoup, à beaucoup de choses, en alertant notamment la presse. Là, dernièrement, on a découvert, enfin, c'est des gens de l'équipe qui ont découvert un endroit à Bédonac. Une unité appelée soutien et autonomie.
C'est une unité d'enfermement pour les détenus en situation de handicap.
C'est ça. Donc, ils ont découvert des gens impotents qui ne pouvaient pas aller de leur fauteuil roulant à leur lit sans des efforts énormes. Des gens obèses, des fous. Un monsieur qui grignotait son réveil électrique. Et puis, des gens qui étaient incontinents et qui étaient cloués dans leur lit et qui baignaient. Je vais réemployer les mots que j'ai déjà employés parce que je n'aime pas les contournements. Ils baignaient dans leur pisse et leur merde, puisque les infirmiers ne venaient que 2 à 3 fois par semaine pour changer les draps ou les changer. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça s'appelle autonomie et soutien, ce truc. Et le médecin qui travaillait là, il appelait depuis 4 ans à l'aide. Personne ne l'écoutait. Et quand le contrôle est venu, c'était ses derniers jours de travail. Et je dois dire que là, ça fait un gros pataquès, parce que c'est absolument tellement scandaleux que personne ne pouvait s'imaginer que ça existait. Et là, les ministres et de la Santé et de la Justice m'ont écrit une grande lettre, oui, une lettre de 9 pages. Bon, il y avait pas mal de blabla au début, mais après, ils disaient, voilà, on va faire ça, 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 et je vous promets, les choses vont changer, on va prendre plus de personnel, et voilà. Et donc, nous, on va y retourner pour vérifier.
Vous pouvez, tout comme le défenseur des droits, être saisi par les citoyens. C'est un peu l'idée les citoyens qui sont enfermés ou qui subissent un enfermement. Est-ce que vous recevez beaucoup de signalements, de plaintes ? Comment vous gérez ce rapport direct au public très différent, puisqu'on parle d'hôpitaux psychiatriques, de centres de rétention administratifs, de prisons, ça n'a rien à voir ?
Non, le seul lien, c'est l'enfermement. On reçoit près de 4000 lettres par an, donc auxquelles on répond toutes. C'est dur, on a un peu de retard, mais enfin, on répond à tout le monde. Et puis, cela nous sert parce que ça alimente notre base de données. Et on se dit, tiens, cette prison ou cet endroit, il y a beaucoup de plaintes. C'est pas normal, donc on y va. Et donc, quand on part, on est abreuvé, je peux dire, par ce qu'on appelle nous, le pôle saisine. C'est... Qui nous donne tous les éléments, les détenus à voir, ceux qui se sont plaints. Alors évidemment, ceux qui se sont plaints, on les voit, on ne les désigne absolument pas. On voit tous les détenus qui veulent, et parmi eux, il y aura ceux-là. Mais on ne veut surtout pas que nul ne sache qu'ils nous ont écrit ou saisi pour les protéger, parce que les représailles ne sont pas rares quand même. Ensuite, il y a des endroits... oui, il y a le standard, maintenant qu'il y a le téléphone en cellule. Le téléphone sonne sans cesse. Alors, les deux jeunes femmes qui répondent au téléphone, parfois, n'en peuvent plus. Et donc, on avait lancé une semaine où on s'est relayé au standard. Je l'ai tenu moi-même une journée. Je peux vous dire, c'est pas de la tarte, parce que les gens vous appellent dans des états... D'abord... Bon, il y a tous les blagueurs. Moi, je vous passe les blagueurs pervers, les mecs qui appellent pour se branler en disant des tas de trucs dégueulasses aux filles. Bon, elles ont pris l'habitude, ça les fait marrer maintenant, quoique. Mais il y a ceux qui appellent parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils se sont fait frapper par un surveillant, ou alors ils n'osent plus aller en promenade parce que les détenus, ils se font frapper, ils sont victimes, on les oblige à ci, on les oblige à ça. Pour des problèmes extrêmement divers, il n'y a pas que les violences, il y a le fait que, par exemple, pendant la pandémie, eh bien, les parloirs étaient transformés en espèce de cage où les familles ne pouvaient pas s'entendre, ils étaient séparés des plexiglas. Mmh. Ouais. Mmh. Ils étaient obligés de hurler, et donc tout à côté de gens qui hurlaient aussi pour se faire entendre. Et il y a plein de détenus qui ont dit à leur famille, ne viens plus. La pandémie, ça a été un moment de restriction.
Alors, terrible. Effectivement, vous êtes arrivé à un moment quand même bien critique.
Oui.
Après 2 mois et demi de vacances du poste, qui est pourtant essentiel, et les inquiétudes relatives au respect des consignes sanitaires, le regain de l'épidémie de coronavirus à l'automne, ça a refait surface dans les prisons. Les activités aussi, j'imagine, proposées par les intervenants en prison ont été réduites à néant.
Voilà.
Qu'est-ce que vous savez à l'heure actuelle des différents impacts psychologiques du confinement sur les détenus?
Je pense d'abord que ils ont été, les détenus dans leur ensemble, bien sympas. Et de pas s'énerver plus. Parce que tout à l'heure, on va voir un film qui s'appelle Sur les toits, vous allez voir une mutinerie à la prison de Nancy. Je trouve que, bon, il y a d'abord ça. Ils se sont montrés très respectueux et je trouve très, très responsables. Pour le personnel pénitentiaire, ça a été une horreur également. Parce que tout le monde avait peur de ce virus. Moi, j'avais demandé au ministre de la Justice qu'on fasse vacciner les détenus et les surveillants en tant que prioritaires. Parce que dans des lieux clos, si ça rentre, mais c'est dramatique. Il y a eu un cluster à la prison de Tours, il y avait, 120 personnes infectées sur 200. Je ne sais pas si vous voyez, mais les surveillants arrivaient habillés comme des cosmonautes. Enfin bon. Et puis, il y a cette peur, d'attraper le virus ou de le refiler. Imaginez l'ambiance si des surveillants qui, eux, sortent, ont des contacts dehors, ramènent le virus à l'intérieur. Imaginez ce que ça peut créer. Et j'ai trouvé très irresponsable de la part du gouvernement de ne pas procéder à ces vaccinations. Ça aurait évité plein de clusters et plein de peurs qui ont fait que beaucoup de détenus disaient à leur famille « Ne viens pas, j'ai trop peur que tu chopes le truc ». Pour les familles, ça a voulu dire aussi arriver une heure avant le parloir. Et si vous aviez 5 minutes de retard, si vous pouvez faire demi-tour. C'est-à-dire après avoir fait des centaines de kilomètres, donc il y a de quoi être assez énervé. Et les activités reprennent lentement, notamment, par exemple, l'enseignement. Moi, j'ai eu un jeune homme au téléphone, il pleurait, il disait « J'ai fait tous les efforts de ma vie pour avoir le bac, et bien maintenant, il n'y a plus d'enseignants. » Donc c'est le CNED, vous savez, l'enseignement par correspondance, qui a pris le relais. Les livrets m'arrivent en ordre dispersé, je ne comprends plus rien. Et puis il termine, il se met à pleurer, il me dit « Madame, si je n'ai pas le bac, je vais me suicider. J'ai fait trop d'efforts. » Oh, je me suis dit, mais donc, on a écrit pour savoir où on était. Enfin bon, vous voyez, on réagit, c'est une petite chose, ça vous paraît une petite chose, mais peut-être si on a remis un peu d'ordre là-dedans, pour lui, c'est une grande chose. Donc voilà, mais ça reprend lentement. Les activités.
Alors, ça remet aussi un petit peu, peut-être, au goût du jour l'idée d'imaginer, de penser des alternatives à la détention. Lors de votre audition devant le Sénat, vous vous êtes également montré extrêmement favorable aux alternatives à la détention. Quelles sont ces alternatives, en tout cas, et quelles sont celles qui sont possibles et imaginables, et de quels moyens on dispose pour mettre ça en place?
Vous voyez, le problème, c'est que des amis magistrats, et d'ailleurs même des pas-amis à magistrats, me disent qu'il est beaucoup plus facile, et ça demande beaucoup moins d'énergie, à la fin d'une audience, de dire 4 mois ferme, plutôt que de choisir un aménagement de peine qui va demander beaucoup plus d'énergie. Or, parce qu'il faut mettre... La France est un drôle de pays, d'abord, assez bureaucrate, et dans lequel tout prend des tonnes de temps. Par exemple, mettre en place un travail d'intérêt général ou coller un bracelet à la cheville ou au bras de quelqu'un, ça demande de savoir est-ce que le type a une maison où on peut poser un terminal pour le bracelet. Est-ce que s'il vit chez quelqu'un, le propriétaire est d'accord pour que, donc il faut l'autorisation du propriétaire pour poser le bracelet. Il faut ci, il faut ça pour le travail d'intérêt général. Est-ce qu'il y a des postes libres et où? Et est-ce que ce monsieur, je dis ce monsieur parce que vous savez qu'on est très peu de femmes en prison, 3,7% de la population carcérale, bon, donc c'est souvent des messieurs, et est-ce qu'il est capable de faire ce travail d'intérêt général? Quel poste j'ai? Et tout ça pour le moment, alors c'est en train de se mettre en place, mais seulement maintenant. Moi, quand j'étais éducatrice à la pénitentiaire, j'ai assisté à la mise en place du premier travail d'intérêt général. Ça fait 30 ans. Je me dis, mais c'est dingue le temps que ça prend. Alors là, ça accélère un peu, parce que je crois que le ministre de la Justice est assez désireux que ça s'accélère, mais puis sa prédécesseuse aussi. Mais enfin, vous voyez, ça prend un temps fou. La libération sous contrainte, c'est aussi bien, c'est une sortie accompagnée. Il vaut mieux une sortie accompagnée, surveillée par les services pénitentiaires et d'insertion et de probation, qu'une sortie, ce qu'on appelle sèche, c'est-à-dire sans rien. Vous êtes débarqué du jour au lendemain devant la porte de la prison. C'est pas difficile en soi.
L'Allemagne, ça coûte plus cher.
Mais ça coûte beaucoup moins cher que la prison. Beaucoup moins cher. Parce que la prison, ça coûte entre 100 et 130 euros par jour. Mais un travail d'intérêt général, ça ne coûte pas ça du tout. D'autant que c'est des entreprises, des associations, des communautés qui mettent ça en place. Donc, je ne vois pas le problème. Il y a aussi un truc formidable, la libération conditionnelle, etc. Je ne comprends pas que les prisons françaises soient encore dans cet état. Et quand je regarde l'Allemagne, qui est quand même un pays voisin, et dont on ne peut pas dire que c'est un pays très laxiste, eh bien, ils ont réussi, ils sont à moins de 80% d'occupation de leur prison. Et nous, nos maisons d'arrêt, je sors d'une maison d'arrêt qui a 187% de suroccupation. C'est lamentable. Et je voudrais comprendre comment, mais c'est philosophique, ou je ne sais pas comment on peut dire, comment tous autant qu'on est, on s'est habitué à cet état de fait, on s'y est habitué. On s'est habitué à ce que... Ah ben, ils sont trois dans la... Avant, ils étaient deux dans la cellule. Ah ben, c'est moche, il ferait mieux d'être que un. Ben, maintenant, ils sont trois. Bon, ben, ils sont trois. Enfin, comment ça passe? Comment on peut laisser des gens vivre comme ça et espérer que ces mois de prison, après ces mois de prison, dans des conditions pareilles... Là, j'ai vu des types, ils m'ont dit, on s'enroule dans nos draps et on met du papier toilette dans nos oreilles pour pas que les cafards... nous courent dessus, mais enfin, vous voyez, alors, il y a des limites. On n'est pas dans un pays en voie de développement, que je sache. On est la France.
C'est une histoire de volonté politique aussi.
Bien sûr.
Au 1er janvier 2021, il y avait 62 673 personnes qui étaient détenues dans les prisons françaises pour effectivement 60 585 places opérationnelles, c'est-à-dire aussi dans des conditions dignes. Malgré la forte baisse de la population carcérale au printemps 2020, la France, comme vous le disiez, reste en proie à une surpopulation un peu chronique, qui contraint souvent 2 à 3 personnes, parfois plus, à partager des cellules de 9 mètres carrés. Encore, ça c'est en théorie, donc c'est plutôt 4,5, 4, et près de 700 personnes dorment chaque nuit sur des matelas posés au sol.
850.
L'un des enjeux de votre mandat de 6 ans, c'est aussi de s'assurer que les recommandations sur la dignité des conditions de détention formulées par la Cour européenne des droits de l'homme, lors de la condamnation qui a eu lieu, je crois, en janvier 2020.
Et en septembre.
Que ces recommandations soient suivies d'effet. Est-ce que depuis la condamnation de la Cour européenne, les choses ont bougé? Est-ce qu'il y a eu une loi ou un projet de loi pour encadrer plus fermement les conditions de détention?
Il y a un projet de loi parce que par obligation, c'est pas par joie que le gouvernement... Et d'ailleurs, c'est un projet de loi très à minima. Franchement, je vois pas ce qui réglera. Mais moi, je fais confiance. Alors, j'ai très confiance dans les avocats, les magistrats aussi. Et je pense que la jurisprudence va faire que cette loi s'améliorera au fur et à mesure. Voyez que ce sera jugé insuffisant et que on sera, la Cour européenne sera obligée d'y revenir, la Cour de cassation certainement, le Conseil d'État sans doute. Et donc, je pense qu'on avancera comme ça. Pour le moment, c'est très insuffisant. Mais nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est outre que je voudrais qu'on aille beaucoup plus plaider la cause, cette cause, devant les tribunaux, les cours et tribunaux, devant le Conseil d'État, ce qui est déjà le cas, qu'on puisse porter nos observations au Conseil constitutionnel, et puis pourquoi pas devant les tribunaux correctionnels, ça c'est mon rêve. Et puis on va élaborer ce qu'on a appelé modestement des fiches prison, puisque pour se rendre compte des conditions indignes, les magistrats devront se déplacer en prison pour vérifier qu'elles sont bien indignes, ou commettre des experts, mais ça coûte très cher, ça prend du temps. Et nous, on va élaborer à partir de nos visites des fiches où on très synthétiques. Si les magistrats veulent aller plus loin, ils pourront se rapporter à notre rapport. Et puis sinon, ils verront tout de suite si c'est vrai ce qu'invoque le détenu ou pas. Après, s'ils veulent aller plus loin, ils pourront. Mais comme ça leur permettra de juger en toute conscience. Et puisque nous, on y va et que eux, les magistrats n'y vont pas assez.
Qu'est-ce qu'elle contient, cette loi, déjà ? Vous disiez qu'elle était quand même à minima, mais qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveauté, quand même ?
La nouveauté, c'est que le recours contre les conditions indignes de détention pourra être porté, c'est un peu technique, devant le juge judiciaire et pas seulement devant le juge administratif comme aujourd'hui. Que ça pourrait être porté donc devant le juge d'instruction, si l'affaire est à l'instruction, devant le juge d'application des peines, devant les juges des tribunaux correctionnels, et que là, malheureusement dans ce projet de loi, le maître mot, c'est le transfert. Si la cellule est indigne, eh bien on va proposer au détenu un transfert. Mais si ce transfert, c'est au prix de partir loin de sa famille, loin de son avocat et loin de tout ce qu'on connaît, il pourra refuser ce transfert. Eh bien, s'il refuse ce transfert, son recours tombe. Ça, je trouve ça vraiment nul. Je comprends que c'est... un souci de sécurité. De toute façon, on est entré dans une année électorale qui va rien pardonner à ça. Donc, on va avoir une surenchère sur la sécurité. Je pense que le gouvernement n'a pas voulu qu'on puisse dire qu'ils allaient lâcher des gens. Moi, en fait, je suis pour une solution très simple. Une prison est sous-occupée. Eh ben, un mec entre, un autre sort. Celui le plus près de la sortie est sous contrôle du juge d'application des peines et des services d'insertion et de probation. Et je sais que ça s'appelle le numerus clausus, que c'est un truc que les gouvernements ne veulent pas en entendre parler. Pareil, on dirait que c'est un gros mot. Alors on va dire régulation carcérale, hein, et commencer par une déflation carcérale. Moi, j'ai eu la déception de voir que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, n'avait pas, pour la pandémie, repris les ordonnances de Nicole Belloubet qu'elle avait prises au printemps 2020, qui, je le rappelle, sont passées comme une lettre à la poste. Parce que personne, j'ai pas entendu de protestation effrayante. Tout le monde a bien compris que c'était dangereux que des gens restent agglutinés à trois par cellule. Pourquoi il ne les a pas reprises je lui ai demandé, je ne veux pas être prétentieuse, mais quand les clusters battaient leur plein dans les prisons. Je crois que c'est toujours pour la même chose, des raisons sécuritaires. On ne veut pas apparaître comme laxiste. Voilà, c'est malheureux. Et je vais vous dire, ces ordonnances de Nicole Belloubet, en fait, si on remonte le temps, elles remplacent les grâces du 14 juillet qui ont été supprimées par Nicolas Sarkozy et qui permettaient tous les ans de désengorger un peu les prisons. Je ne dis pas que c'est génial, les grâces. Hein. Parce que moi, j'étais éducatrice à l'époque, on voyait débarquer... des dizaines et des dizaines de mecs dont on ne savait pas trop quoi faire parce qu'on ne nous mettait pas trop les moyens à côté pour leur trouver des logements, des trucs et tout. Mais enfin, il n'y avait pas non plus des taux de récidive monstrueux, il y en avait un peu. Mais là, tel que le numerus clausus, tel qu'on peut le présenter aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Les gens sortent sous surveillance. Ils ne sortent pas tout seuls, accompagnés. Et c'est des gens, vous voyez, il ne faut pas nous faire une histoire. Ils sortent à 15 jours de leur sortie de toute façon. 15 jours, un mois, c'est pas un drame.
Le 6 juillet, vous avez publié un avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté. Avis basé sur des visites qui ont été menées par vos équipes, donc oui. Dans trois prisons, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, au centre pénitentiaire de Caen et de Toulouse-Cesse, ainsi que dans un commissariat à Toulouse. Oui. Cet avis pointe notamment les difficultés de l'administration pénitentiaire à penser la mixité, en fait, dans les établissements, dans un contexte où la question, comme vous l'écrivez dans votre notre avis, de la sexualité est rarement abordée autrement que sous l'angle des risques d'agression. Quels ont été les retours du ministre de la Justice et quelles sont les pistes que vous préconisez pour prendre mieux en charge cette problématique qui, effectivement, est quand même d'actualité?
Si vous voulez, moi, je ne peux pas dire que j'étais une grande connaisseuse de la question des transgenres. Et j'ai beaucoup appris, et je trouve qu'en lisant cet avis, puis en écoutant les deux contrôleurs qui s'en sont occupés, et que ça a passionné. Par exemple, j'ai appris qu'on était du sexe dont on se revendiquait. Et que si on se sentait femme, on avait beau avoir un pénis, on était quand même une femme. Et que si on se sentait homme, on avait beau avoir un vagin, on était une femme. Je ne dis pas que c'est facile à assimiler comme on n'a pas eu cette éducation. Et justement, c'est ce manque d'éducation et de formation qui fait que ça va un peu à volo. Et je crois que ça n'est pas par, du tout pas, ça n'est pas par méchanceté que ça se passe mal. C'est par, il y avait d'abord, moi j'ai connu une époque, je me souviens d'avoir écrit un papier dans Libé, et c'était une phrase d'un surveillant qu'on avait mis entre guillemets. « Quand je veux me faire sucer, moi je vais au D5 ». Le D5, c'était à Fleury-Mérogis ce qu'on appelait le bâtiment, ce qu'on appelait à l'époque des travestis ou travelots. Vous voyez, c'est plus un mot qu'on emploierait. Hein. Moi, je l'ai écrit, ça. Et je l'ai écrit, je relis ça, et je me dis oh, « t'as écrit ça !» Puis on s'en sortait avec des espèces de rires un peu gras, un peu gênés. C'était la gêne qui dominait. Et je pense que c'est ce qui domine encore. Et quand, en fait, quelqu'un qui se sent femme est affecté dans un quartier homme, c'est un supplice. Et le contraire, pareil. Alors donc, les transgenres, on les affecte plutôt souvent dans des quartiers, soit à l'isolement, ce qui est très dur, soit dans des quartiers pour personnes vulnérables. Parce que les détenus ne sont pas tous des anges, hein, et il peut arriver des choses vraiment dures et même horribles. Ça commence par les moqueries, mais ça finit pas par les insultes, ça finit par les coups qui pleuvent, ou je sais pas, ou les viols. Donc, il faut faire attention et il faut que tous on se remette en question. Moi, je trouve que ça nous oblige à réfléchir et c'est bien intéressant de réfléchir à ça. Ben non, oui. Il a un pénis et c'est une femme, ben je dois l'admettre et je me mets ça dans la tête. Et une fois que je me suis mis ça, moi, Dominique Simoneau, dans la tête, j'ai vu les choses beaucoup plus calmement et beaucoup plus simplement. Je me suis dit, après tout, ben oui, pourquoi on en fait toute une histoire au fond? Mais c'est vrai qu'il faut que ça passe. Je trouve que c'est quand même, on a fait des progrès. Hein. Depuis le temps où je vous parle et où j'avais écrit ce fameux papier là, qui m'est resté... en mémoire, et je compte beaucoup sur la formation. Et là, la réponse des ministres, elle a été aussi plutôt à la hauteur, elle est pas mal. Ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts, réfléchir eux aussi, faire de la formation, inculquer au personnel qui garde les enfermés que c'est pas si simple et que faut voir les choses. Oui, faut se détendre sur le sujet. C'est comme ça maintenant. Et à mon avis, c'était comme ça depuis toujours. Et simplement, maintenant, on le voit. Ben, c'est vraiment bien. Et si grâce aux transgenres enfermés, on peut aussi faire progresser le problème dans son... Enfin, le problème, la question plutôt, oui. Dans son ensemble, ce serait bien.
Une dernière question. C'est la première édition des rencontres Concertina. C'est pour ça que vous êtes en visite à Dieulfi. C'est une initiative qui souhaite se renouveler chaque année et qui permet aux professionnels, aux artistes et aux chercheurs qui travaillent sur les lieux d'enfermement d'échanger avec le public. Est-ce que vous connaissez d'autres initiatives de ce genre? Est-ce que vous pensez qu'on évoque suffisamment ces sujets au sein de la société civile?
Ben, vous voyez, quand j'ai commencé dans le journalisme... on en parlait très peu, des prisons. Et puis finalement, Libé, où j'étais, avait une tradition avec les prisons. Et c'est vrai qu'on a bien remonté la pente. Et puis, je trouve que maintenant, quand même, on parle beaucoup plus. J'entends des gens qui me disent « on n'en parle jamais ». C'est pas vrai, on en parle beaucoup. Parfois, pas bien du tout. Parfois, sous l'angle très sécuritaire. Vous savez, moi, je reste très nostalgique de l'époque avant 2004 où s'évader de prison était considéré comme quelque chose de tout à fait humain et normal et n'était pas puni quand c'était par ruse. Et aujourd'hui, depuis la loi de 2004, eh bien, l'évasion est punie, qu'elle soit par... Bon, par violence, ça a toujours été puni à cause des violences, mais pas à cause du fait de l'évasion, parce que l'évasion était considérée comme normale. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à cette définition beaucoup plus, que je trouve beaucoup plus intelligente et beaucoup plus, surtout, logique de l'évasion. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir s'évader.
Dominique Simoneau, merci. On précise que le contrôleur des lieux de privation de liberté peut être contacté pour déposer une réclamation pour tout problème lié aux conditions de détention. Vous allez certainement recevoir plus de courriers après cette annonce.
Ah bah j'espère, donner l'adresse.
Et ce, par mail, directement via le site cglpl.fr. On va vous laisser profiter des rencontres concertina. Ça se déroule jusqu'à dimanche. Vous ferez notamment une allocution ce soir en début de soirée à 20h au parc de la Baume, que vous allez découvrir. Très bel endroit.
Merci.
Bon séjour
merci
à
Merci beaucoup.